Alors, le thème d'aujourd'hui, ce qui avait été décidé au conseil d'administration en 2017, c'était de faire un essai de café sur le monde d'après. Alors, le monde d'après, c'est assez vaste. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai en fait pensé à Hervé Signaux-Dupuis, qui est notre intervenant du jour, puisqu'en fait, il écrit un blog qui s'appelle Perso Politique, que je lis de manière régulière. Et dans ce blog, il avait écrit, entre autres, nous venons d'atterrir dans un monde fragile et il va falloir apprendre à vivre avec cette fragilité. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. On pourrait partir de ça. Et du coup, je lui ai proposé d'intervenir et puis on a fait un petit groupe de travail avec Héloïse, Sophie et Emmanuel pour réfléchir au thème. Et avec lui, on a donc décidé de retenir 2050, habiter avec le vivant. Habiter parce que c'est notre métier que de créer des espaces dans lesquels les gens vont vivre. Avec le vivant parce que, ben parce qu'on est dedans, on est lié, on ne peut pas en sortir. Voilà, on ne peut pas être contre. Et puis 2054, parce que ça c'est une date qu'a proposé Hervé, mais ça nous permet en fait de nous projeter dans le futur. Alors, qui est donc Hervé Chaigneux-Dupuis? Donc, Hervé est consultant en innovation sociétale et développement durable. Il est ancien directeur des stratégies au sein de Deloitte Développement Durable. Aujourd'hui, il est à Oxalis, une coopérative d'entrepreneurs en tant que consultant indépendant. Il a animé pendant une dizaine d'années les ateliers de la citoyenneté. Et c'est là, en fait, où on s'est rencontrés et où j'ai participé avec lui à cette aventure assez incroyable où il s'agissait de réfléchir à ce que c'était qu'être citoyen dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, notamment avec des groupes de travail. Et c'est là où j'ai découvert, on va dire, un peu tout ce qui était intelligence collective, écoute, comment on pouvait transformer les choses. Voilà. Hervé est membre de plusieurs collectifs, dont Démocratie ouverte, et il est co-concepteur du projet Imaginarium pour mettre l'avenir en récit, dont il va nous parler un peu tout de suite là. Et puis, il est blogueur, donc avec le blog dont je vous ai parlé, qui s'appelle Perso Politique, et que je vous conseille parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'aide à comprendre le monde dans lequel je vis. Voilà. Donc, je vais couper les micros de tout le monde. Et je vais te proposer, Hervé, de rallumer ton micro et de commencer ton intervention.
Bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ma cuisine. C'est la seule pièce de l'appartement où j'arrive à faire des réunions Zoom sans que ça coupe au bout d'un moment. Donc voilà, vous avez le plaisir de découvrir mon décor. Merci à toi Christine de m'avoir présenté dans ces termes et puis merci à Alicette de m'avoir invité alors que je ne suis pas quelqu'un de connu, alors que vous avez l'habitude d'inviter sinon forcément des célébrités, mais en tout cas des personnalités. C'est bien d'avoir le courage d'inviter des gens qui ne sont pas reconnus, mais le sujet est suffisamment important et intéressant, manifestement, pour qu'il y ait du monde. Nous sommes nombreux ce soir et moi, j'en suis ravi. Je ne vais pas vous parler en tant que consultant, je vais vous parler plutôt en tant qu'imagineur. Mon boulot a été longtemps de travailler sur les questions de développement durable et malheureusement, une bonne part du développement durable est un développement durable de conformité. Là, pour essayer de faire en sorte que les gens respectent des normes et fassent évoluer leur activité, mais c'est très long, très fastidieux, c'est absolument indispensable, mais ça me laissait en partie insatisfait. J'avais besoin de travailler sur les imaginaires, sur des perspectives à plus long terme, avec la capacité à proposer d'autres visions du monde que celles qu'on a, hein, qui sont dominantes. Et donc, l'imaginarium a pour objectif d'aider les gens à travailler sur des récits collectifs, parce que je pense que les imaginaires ne se construisent pas dans la tête d'une personne, mais se construisent dans la pluralité de nos têtes et souvent toutes en même temps. Et c'est extrêmement important de voir à quel point ce besoin d'imaginaire nouveau est fort, pendant le confinement avec Imaginarium, on a proposé à des gens de passer par la faille temporelle et de venir faire un récit de ce passage de 2020 à 2054. On a proposé de construire une série audio en épisode avec une quinzaine, à réunir 15 équipes qui ont fait 15 épisodes chacune. On n'imaginait absolument pas en lançant le projet qu'on aurait autant de gens, ça représente quand même plus de 50 personnes qui ont participé pendant le confinement, pendant 3 semaines, à la construction d'une série audio qui sera bientôt en ligne sur le site de l'Imaginarium. Je vous inviterai parce que ça vaut vraiment le coup d'aller écouter cette série, vraiment conçue comme une série, c'est-à-dire avec des personnages récurrents, avec un thème récurrent. Ce n'est pas juste des fictions les unes à côté des autres, ça essaye de construire une histoire. Évidemment à plusieurs voix, des équipes qui ne se connaissaient pas, donc c'était assez marrant à faire. Voilà, donc l'Imaginarium travaille sur cette construction de récits. Et évidemment, la période qu'on vit, elle me passionne. J'ai beaucoup écrit dans mon blog, effectivement, comme l'a dit Christine tout à l'heure, parce que ça remet Volins-Nolins, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nos pendules à l'heure. Notre boussole est détraquée et tout d'un coup, elle s'affole et on ne sait plus dans quel monde on vit, dans quel monde on habite. Et donc, on vient de découvrir que nous vivons dans un monde qui n'est pas comme nous imaginions qu'il était. On en avait des représentations et toutes ces représentations sont en train de se casser la gueule les unes derrière les autres. On pensait vivre dans un monde à peu près sûr. On se rend compte qu'un virus, le plus petit être vivant, même on ne sait même pas exactement si c'est absolument un être vivant, mais enfin, quelque chose qui, malgré tout, en se combinant avec du vivant, devient vivant. Cette chose-là, microscopique, nous a arrêtés, alors qu'on nous disait que le progrès n'était pas arrêtable, que malgré les besoins de transition écologique, transition sociale, transition environnementale, transition démocratique, etc., toutes ces transitions devaient passer, certes, mais après le fonctionnement normal de nos entreprises, de notre système économique, que la mondialisation ne s'arrêtait pas. Or, dans le monde entier, pratiquement dans le monde entier, on s'est arrêté, on a laissé passer le virus. Il y avait un très beau texte sur d'une anthropologue, je crois, qui racontait ça. On a laissé passer le virus. Le virus, il passe et nous, on est obligés de s'arrêter. Donc voilà, on a découvert qu'on vivait dans un monde fragile et que toutes nos certitudes, elles étaient, même si elles étaient déjà largement remises en cause par un bout ou par un autre, on le sait bien avec les questions de transition écologique, mais on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était le cas. Et tout d'un coup, on se dit « Ah, mais ça aussi, ça ne marche pas. Ah, l'hôpital, ah oui, d'accord, c'est quand même sacrément délabré. » En même temps, c'est extrêmement résilient et ça, c'est quand même très encourageant. C'est-à-dire que c'est à la fois extrêmement en extrême difficulté et en extrême capacité à faire face à la difficulté. On y reviendra, cette question de la résilience, elle est clé. Donc, voilà, moi j'en ai listé quelques-unes de nos certitudes effacées. On ne peut pas ralentir, on ne peut pas freiner. L'argent, il n'y en a pas. Tout d'un coup, quoi qu'il en coûte, on arrive à faire face. On pensait que l'État, c'était quand même une survivance, que les impôts, c'était pénible, etc. Que l'État, c'est quand même nécessaire, voire utile, voire indispensable. On avait des doutes sur notre société en se disant « cette société, elle est bien malade, il faudrait la remettre en mouvement, etc. » Et on se rend compte que notre société, elle est vivante. Alors, bien sûr, vous qui travaillez sur les enjeux de développement durable, vous le savez, mais on est loin d'être aussi nombreux que ça, de croire que la société, elle est vivante, elle est active, elle est capable d'imagination, de faire face. Et on l'a vu, les hôpitaux, quand ils sont libérés d'une part de la tutelle, alors je ne dis pas que les ARS sont des empêcheurs de tourner en rond, mais on sait bien que, malgré tout qu'il y a des limites à l'innovation et à l'activation des ressources de l'hôpital. tout d'un coup, les choses sont redevenues possibles. On a eu une créativité, une débrouillardise qui s'est révélée. Et ça, dans les hôpitaux, mais bien sûr dans tout le reste de la société. On disait que le télétravail, c'était impossible, que ça ne toucherait jamais plus de quelques pourcents de la population. On a mis massivement les gens au télétravail. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'idéal, qu'il va falloir en rester là, mais ça a fait bouger, évidemment, pas mal de lignes, et on ne reviendra sans doute pas à la situation d'avant. Donc, plein de choses ont bougé. Et puis, plein de choses qu'on ne voulait pas voir se sont révélées. Alors, on a beaucoup parlé de ces métiers qui étaient invisibles et qui étaient rendus visibles. On les a applaudis à 20h. Donc, voilà, plein de choses sont apparues, se sont déplacées, nos curseurs ont bougé. Et ce qui bouge, c'est que fondamentalement, pour moi, c'est ce que rappelait Christine en démarrant, c'est qu'on vit dans un monde fragile. On vit dans un monde fragile et ça, on ne sait pas bien faire, on n'a pas bien l'habitude, on est habitué à vivre dans un monde de la maîtrise absolue, du juste à temps, de l'optimisation continue. Et on atterrit dans une terre inconnue, faite d'aléas, d'incertitudes, de nécessité à composer. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Je n'ai pas raconté récemment les occurrences sur mon blog, mais c'est vrai que cette idée de composer, elle est strictement indispensable quand on est dans un monde fragile. Et on va voir que c'est quelque chose qui est finalement relativement nouveau encore aujourd'hui. Enfin, donc, ce monde fragile, eh bien, on n'a pas de représentation de ce qu'il est. On n'a que des bribes. Nous tous, on essaye de le construire, on essaye d'en percevoir des choses. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde fragile? Comment on se le raconte? Comment on peut en avoir une image désirable, une représentation désirable? C'est loin d'être simple. La fragilité, ça fait peur. On a des angoisses même par rapport à ce qu'on découvre. Ah, la science ne peut pas tout. Ah, la science n'est pas capable de lutter contre un virus. Ah, mais on nous dit qu'on risque d'avoir demain d'autres épidémies. D'ailleurs, ça je l'ai aussi écrit sur mon blog, c'est la première maladie qu'on appelle par une année. Covid-19, c'est la première maladie qui a un millésime, comme un grand vin. Et donc, comme un grand vin, on va en avoir d'autres. Et on aura des bonnes années, on aura des moins bonnes années, mais on aura un Covid-23, etc. Ce n'est pas réjouissant, mais c'est manifestement une réalité. Sans ça, on n'y aurait pas donné ce point. Ça, c'est angoissant. C'est angoissant de se dire que les choses ne sont plus maîtrisables. On croyait qu'elles l'étaient. Bien sûr que c'était faux, bien sûr que ce n'était pas maîtrisé. Mais pour autant, nos représentations nous laissaient croire. Et donc, aujourd'hui, on est face à ce grand vide de nos imaginaires. Et déjà depuis plusieurs années, moi, je recense avec Imaginarium tous les gens qui parlent de « il nous faut de nouveaux récits, il nous faut de nouveaux imaginaires ». Et c'est un leitmotiv. Sauf que c'est généralement la fin d'un article et que c'est jamais le début. Donc, on nous laisse sur cette fin qu'on a, de nouveaux imaginaires, mais on ne nous amène pas le début d'un nouvel imaginaire. Et regardez le monde des séries, qui est quand même la chose qui façonne le plus les imaginaires contemporains. Visitez Netflix, visitez n'importe quelle plateforme, vous ne trouverez pas de séries proposant des imaginaires du futur positif. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a Black Mirror, on a des séries de cet ordre-là qui nous font voir effectivement des choses extrêmement utiles. Elles nous montrent les limites de la technologie, elles nous montrent les limites du monde qu'on a construit. Et donc, elles nous aident à réfléchir. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais je dis qu'elles ne nous aident pas réellement à construire le monde d'après, celui qu'on peut désirer. Et quand j'ai découvert il y a quelques années le design fiction, je me suis dit « Ah, chouette, enfin, on va construire du design sur de la fiction. On va s'inspirer de la fiction pour construire nos services, nos objets. » Sauf que j'ai vu très vite que cette fiction-là, c'était encore de la dystopie. C'était toujours de la dystopie. On nous montre le monde qu'il faut éviter de construire. Et après, on se dit, bah, débattons du monde qu'on veut. Mais c'est toujours à la fin. C'est toujours les cinq dernières minutes. Et on sait bien que les cinq dernières minutes, ça ne suffit pas pour construire le monde désirable. Donc voilà, on a absolument besoin d'aller au-delà de ces représentations. Parce que on ne construit les mondes, on ne construit un monde que quand on l'a rêvé, que quand on l'a désiré. Je prends l'exemple et on le voit régulièrement apparaître en ce moment, vous avez sans doute la référence en tête, le Conseil national de la résistance. On a rêvé le monde de l'après-guerre pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a un groupe d'humains qui se sont réunis pour se dire qu'est-ce qu'on veut pour l'après. Et c'est les jours heureux, le président de la République y a fait référence il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est évident que si on veut pouvoir construire et pas simplement réparer, si on veut imaginer, pas simplement réimaginer, réimaginer pour moi, c'est faire la même chose différemment. Mais on a besoin de faire autre chose que la même chose. Il faut des voies nouvelles, il ne faut pas juste repaver les voies anciennes. Donc, des voies nouvelles supposent de construire cet imaginaire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? J'ai essayé de ne pas faire comme ce que je reproche aux autres, de dire dans seulement les cinq dernières minutes ce qu'on peut faire. Alors, évidemment que moi, je ne prétends pas construire à moi tout seul l'imaginaire de demain. En revanche, ce qui me semble important, c'est qu'on se dise par quoi ça peut passer. Pour moi, ça passe d'abord par se redonner des boussoles. On a une boussole qui s'est calée sur l'économie depuis 30 ans, 40 ans, l'économie et la technologie. Or, aujourd'hui, il me semble que si on veut avoir une boussole adaptée au monde fragile dans lequel on est, il faut partir sur les opposés de l'économie et de la technologie. Face à l'économie, il y a le politique, remettre le politique au premier plan. Et par rapport à la technologie, il faut remettre le vivant au premier plan. Et donc, c'est dans ce cadran entre politique et vivant, à mon sens, qu'on peut construire les mondes désirables de demain. Et donc, une boussole, ça sert à se dire, ah, au fait, si on va dans cette direction-là, est-ce qu'on est bien orienté vivant, est-ce qu'on est bien orienté politique au sens de construire des mondes communs, évidemment. C'est ça pour moi le politique, ce n'est pas juste les élections et la compétition électorale. Donc, d'abord, se donner des boussoles. Deuxième chose, c'est sortir de la peur et redécouvrir la force de la fragilité. La fragilité, ce n'est pas un truc insupportable. Il ne faut pas bétonner à chaque fois qu'il y a, un truc qui a l'air d'être fragile. Il ne faut pas le reconstruire. Il ne faut pas assurer les choses. Il faut au contraire faire avec. L'idée de faire avec, c'est essentiel. Et je vais vous donner trois exemples moi, qui m'ont inspiré toute ma vie. Un mot que j'ai utilisé à un moment donné quand j'étais en indépendance, c'était le terme de kazumitei. Ce sont des digues que les Japonais construisaient il y a fort longtemps, ils construisaient hélas plus, des digues en chevron qui laissaient passer l'eau. Et donc, à quoi ça sert une digue qui laisse passer l'eau? Vous allez me dire, bah, ça sert à freiner l'eau et donc ça sert à l'action catastrophique. Or, qu'est-ce qu'on cherche à faire? In fine, on ne cherche pas à empêcher l'eau de passer. On sait très bien que l'eau, elle finit toujours par passer par un bout, par un autre. Donc c'est prométhéen, c'est une vision prométhéenne. Ce n'est pas une vision d'un monde vivant, d'un monde avec lequel on co-agit. Les chevrons qu'ils construisaient le long de la rivière permettaient à l'eau de passer tranquillement, parce qu'elle était freinée par les chevrons qui l'obligeaient à reculer. Et ça allait inonder des rizières. Et une rizière inondée, bah, c'est jamais qu'une rizière qui a un peu plus d'eau qu'elle n'en avait avant. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, on peut faire avec. Moi, il y a un autre exemple qui me passionne et qui correspond assez bien à votre univers, c'est la question de la construction en terre. J'ai toujours été fasciné par le fait que c'est très difficile de dater une construction en terre, parce qu'une construction en terre, elle est en permanence reconstruite sur elle-même. Dans le sud marocain, au Yémen, malheureusement, le Yémen, je ne sais parce qu'il restera de ces architectures merveilleuses qui existaient, mais elles se reconstruisent en permanence, parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles s'effritent, et donc il faut les refaire. Et donc elles sont quasiment pas datables. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ça en tête. Et puis, il y a aussi un univers qui m'a toujours séduit, c'est l'univers de Skuyten, de Luc ou Schuiten, si vous prononcez la française, qui est architecte et qui est dessinateur et qui a fait les villes végétales, qui a imaginé toutes les manières dont le biomimétisme pourrait inspirer la fabrication de la ville. Donc voilà, on peut utiliser ce qui est le plus fragile, le plus périssable, le moins durable, pour faire du plus durable, du plus résilient, à condition évidemment d'être attentif à ce qui est réellement durable. Voilà. Et à partir de ça, à partir de ces ressources, donc une boussole, le sentiment que la fragilité n'est pas un mal en soi, il faut pouvoir se raconter des histoires. Et moi, il y en a... Attends, je regarde de l'heure parce que je me rends. Oui, il faut que je conclue assez vite. Il y a deux histoires en ce moment que j'ai envie de raconter, que je n'ai pas racontées, mais qui me semble qu'il est important de se raconter. C'est la question de l'alimentation des agriculteurs, du rapport à la terre, du rapport au sol, du rapport aux arbres. On a des histoires là fabuleuses à se raconter. Elles commencent à se raconter. On voit bien que les arbres inspirent de plus en plus. On a écrit dans le cadre de l'Imaginarium une école du futur. Ben, cette école, elle a été immédiatement une école arbre, puis une école forêt. Donc, je ne vais pas vous détailler ça, mais voilà, on sent qu'il y a des récits possibles. Et je pense aujourd'hui qu'on doit se raconter une histoire de l'agriculture différente. Il faut qu'on se dise, demain, on pourra être fier d'agriculteur, d'être agriculteur. Il y a dans la série qu'on a créée des agriculteurs qui deviennent stars en 2054. Eh bien, je pense qu'effectivement, on ira dans cette direction-là. Qu'est-ce que c'est qu'un monde où les agriculteurs ne sont plus des gens qui se suicident, mais des gens qui deviennent stars? Voilà. Est-ce que c'est l'objectif qu'ils deviennent stars? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qui ne sont plus les damnés de la terre. Il y a une autre histoire, à mon sens, qu'il faut qu'on arrive à se raconter, c'est l'histoire des villes. On ne peut plus se raconter l'histoire dominante des 20 dernières années, l'histoire de la métropolisation. Je pense que cette histoire-là, c'est une histoire qui est déjà tellement datée. Je pense qu'on est en train d'inventer une autre histoire, une histoire des villes où on a envie de vivre, et ces villes, elles seront nombreuses, beaucoup plus réduites en taille, mais elles peuvent être grandes, mais elles peuvent être toutes petites, mais en tout cas, on va réapprendre l'urbanité. Et moi, j'espère vraiment qu'on va travailler sur des histoires de villes qui soient des histoires de villes différentes. Et puis, je terminerai par ça. Je pense qu'il faut des germes puissants pour pouvoir se raconter des histoires nouvelles. Moi, je travaille depuis longtemps sur un germe particulier qui est le germe démocratique. J'ai beaucoup travaillé sur la question démocratique. Mon blog s'appelle Perso Politique, c'est pas un hasard. Et je pense que un germe, c'est l'utilisation des citoyens comme matière première de la démocratie. Et donc, le tirage au sort, pour moi, a toujours été une manière de reconnaître que les citoyens ont une capacité à agir dans la cité directement et qu'ils peuvent, dans certaines conditions, de manière organisée, être tirés au sort. Quand il y a 15 ans ou 16 ans, j'écrivais là-dessus, je me faisais mes huées. Mais vous n'y pensez pas, la démocratie, c'est pas ça, c'est le vote. Et aujourd'hui, force est de reconnaître quand même qu'on a progressé et qu'on va dans cette direction-là et qu'il y a, avec la Convention citoyenne pour le climat et plein d'autres initiatives, évidemment, d'immenses progrès sur la place qu'on donne aux citoyens dans notre fonctionnement démocratique et pas juste par une démocratie participative concédée. Donc voilà, premier germe de changement. Deuxième germe de changement qui me paraît de plus en plus important, que j'ai moins travaillé, mais qui m'obsède aujourd'hui, c'est la question de la propriété. Je pense qu'on arrivera à sortir de cette crise que si on se rend compte que la propriété n'est pas un absolu. Or, les droits de l'homme en France, la Déclaration des droits de l'homme a sacralisé foncièrement la propriété. Et ce droit inaliénable, durable, ad vitam, y compris quand on est mort, ne permet plus de faire face à la fragilité du monde. Et je pense qu'on va être obligé d'inventer des droits de propriété fondants. Il y a un type qui a écrit des choses extrêmement intéressantes là-dessus, qui s'appelle Emmanuel Dockels, Voyage en misarchie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce bouquin, qui est encore un peu confidentiel, mais qui est super. C'est une utopie, mais concrète, une utopie avec du droit. C'est un juriste qui l'a écrit, c'est extrêmement passionnant. Voilà, j'ai été trop long, mais je voulais vous donner quelques éléments pour se dire, oui, on peut faire avec le vivant, oui, ça peut être intéressant, oui, on peut avoir des imaginaires qui soient désirables. En tout cas, moi, ils me font plus rêver que les imaginaires qu'on a construits depuis 40 ans. Voilà.
Merci Hervé. On va passer en mode de travail en petit groupe pour une fiction prospective. Est-ce que tu peux nous oui. dire ce sur quoi tu voudrais que les groupes travaillent?
Une fiction, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas la première phrase. Donc là, on va vous donner une première phrase parce que ça permet de rentrer dans l'histoire. C'est pas forcément comme ça que vous seriez rentré, mais en vous créant une contrainte, ça vous donne un point de départ. Et puis, vous allez voir, ça vient tout seul. Donc, voilà, on est en 2054. Nous avons tous pris l'habitude de vivre dans un monde vivant et surprenant. Un monde fragile, vivant et surprenant. Mais ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, la suite, c'est ça. C'est à vous de l'écrire. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, qu'est-ce que je découvre? Comment on y a fait face? Comment je me suis débrouillé avec cette surprise du matin? Voilà, c'est ce que j'ai envie qu'on essaye de raconter et en petit groupe, parce que c'est toujours plus riche de le faire en petit groupe.
Bon, eh bien, je pense que, voilà, on a, on va dire, la plupart des choses.
D'accord. Est-ce que Hervé, tu veux, oui. du coup, appeler alors, peut-être
ouais, moi, j'ai capté comme ça des mots au fur et à mesure du défilement. Et au-delà des titres, je trouve qu'il y a des mots qui me parlent, qui m'appellent. Donc, voilà, j'avais envie que vous nous les partagiez. Ceux qui ont parlé d'îlots, par exemple, d'assemblage d'îlots. Vous pouvez prendre la parole et dire votre texte.
Alors, moi, je suis Virginie Levenoc, je suis architecte. On a beaucoup parlé de, à mon avis, plutôt politique qu'autre chose sur la façon dont pourrait être organisée la société dans ce 2054 avec justement... Beaucoup d'autonomie au niveau local, beaucoup de solidarité.
Avant de commenter, est-ce que ça vous ennuie de lire le texte que vous avez fait?
Oui, tout à fait.
C'est toujours mieux.
Donc, merci. En ouvrant nos volets ce matin de 2054, on se retrouve dans une ville, assemblage d'îlots avec de la végétation, de l'agriculture, les animaux, des marchés. De notre fenêtre, on aperçoit l'oasis de notre îlot, où interagissent nos voisins dans un esprit de partage et de solidarité autour de des biens et des savoirs. Cet îlot relativement autonome, relié aux autres, donne une échelle d'économie locale à laquelle chacun participe. Il représente le premier échelon de gouvernance.
D'accord. Donc, effectivement, cette logique d'îlot, d'archipel, elle est très présente dans les imaginaires qui sont en train de se construire. C'est certain. C'est intéressant. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont vous accueillez l'accident, le truc qui est imprévu. Comment vous accueillez l'imprévu dans votre îlot? Vous l'avez un peu évoqué?
Alors, Alors, il n'y avait que moi qui avais vu un imprévu. Les autres n'avaient vu que ce qui était bien, bien, bien ancré, justement. Il n'y avait pas vraiment d'imprévu.
Et votre imprévu à vous, c'était quoi?
Ah, moi, j'avais imaginé une délégation d'animaux venant réclamer de la place.
D'accord. Et ça, c'est intéressant aussi parce que quand on a fait un Bright Mirror, je ne sais pas si vous connaissez le processus Bright Mirror qui a été créé il y a quelques temps et qui travaille aussi sur cette question des imaginaires et des récits collectifs, dans le même esprit vraiment. Moi, j'ai coopéré avec eux. Et donc, dans Bright Mirror, sur la démocratie, il y avait cette idée qui était apparue. Moi, je ne l'avais pas introduite au départ. Du vivant et du non-vivant, de l'humain et du non-humain. Et ça me paraît extrêmement important, cette interaction-là. Et je pense qu'elle sera de plus en plus présente dans nos manières d'aborder la question politique, hein, y compris la question politique. Déjà, Michel Calon, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, le sociologue Michel Calon a parlé des coquilles Saint-Jacques de la baie du Mont-Saint-Michel comme devant avoir la parole. Et ça date de 20 ou 30 ans. Donc, il y a des gens comme ça qui ont eu des intuitions assez fortes sur la nécessité de parler entre nous tous, et le tous étant important. Il n'y a pas que des humains. Donc, moi, j'ai écrit « Conversation avec un virus », par exemple. Autre, Evo Sapiens, ça me plaisait bien cette idée d'Evo Sapiens. Qui est-ce qui a écrit? Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais vous allez nous le dire.
Dans ce cas-là, pour le groupe 8, c'est moi qui vais donc vous en parler. Ouais. L'idée, en fait, c'est un déconfinement de la nature. L'idée, c'est en fait une sorte d'ensauvagement en fait, de nos villes. L'idée, c'est qu'en fait, un nouveau contrat social ou sociétal s'est en fait établi, que la nature et les villes, finalement, ont convergé, ont fusionné l'un dans l'autre. Donc le texte en fait décrit une ville qui finalement est envahie par la jungle ou la jungle qui envahit la ville, et c'est cette cohabitation qui est décrite dans le texte ensuite avec des singes, des lianes et un mode D'accord. de vie en symbiose entre les deux mondes.
Bon, lisez-le nous, parce que les imaginaires ça passe beaucoup par des récits, donc j'aime bien les récits directs.
Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, le champ habituel des oiseaux avait été remplacé par celui des singes. Les singes étaient passés comme des tarzans devant les fenêtres depuis une liane. Paris n'est plus ce qu'il était. La végétation a envahi les façades, des lianes, des fruits comestibles, etc. se trouvent un petit peu partout. À chaque fenêtre, chacun présente ses fruits, ses légumes. Les échanges se font à travers des tyroliennes qui traversent en fait les rues d'un bâtiment en fait à l'autre. La nature sauvage a repris ses droits. L'affluence humaine se retrouve ce matin au niveau des balcons parce que c'est l'heure du partage de l'eau. Les citernes, en fait, cette année sont un petit peu moins remplies et la question de l'eau va se poser sans que ce soit en fait critique. Il faut sous-entendre que le climat est plutôt paisible. Ce nouvel écosystème a plu à des espèces proches, comme proches des nôtres. L'évolution du climat est en rapport avec la nature. Un nouveau contrat social en fait a émergé, et a posteriori, la crise du Covid-19 a été plutôt favorable en réimaginant et en obligeant chacun à trouver un autre mode de cohabitation.
Très bien.
L'élément déclencheur,
ce sont les singes. Christian, si vous voulez bien, parce que votre texte est un peu long, mais
juste
mais
un mot, ce sont les singes qui sont en fait des éléments migrants.
Oui, et je trouve ça chouette. On a beaucoup parlé des oiseaux là, pendant la crise du Covid et pendant notre confinement, et de voir que les singes remplacent les oiseaux ce jour-là, je trouve ça intéressant. Autre chose intéressante, c'est la tyrolienne qui passe, l'usage de la tyrolienne. Certains d'entre vous ont dû lire Les Furtifs, évidemment, donc le dernier roman de Damasio, et il joue beaucoup sur les toits et l'usage des toits, et donc des tyroliennes pour rejoindre ces toits, parce que c'est le seul endroit resté libre dans les villes colonisées par les marques. En fait. Et donc, ouais, je trouve ça intéressant aussi. Puis, il y a un mot que vous avez utilisé qui est ensauvagement. Et ça, c'est aussi un mot qu'on retrouve de plus en plus notamment avec quelqu'un comme Baptiste Morisot, hein, que vous avez peut-être aussi repéré avec la question des loups et de la diplomatie qu'il est nécessaire d'avoir avec la vie sauvage. En fait. C'est aussi un élément intéressant. Merci. Qu'est-ce qui avait parlé de symbiose ?
C'était dans notre groupe aussi, l'idée étant que nous sommes un morceau d'un système et que le système, c'est aussi nous.
Donc, mais vous n'étiez pas Evo Sapiens ?
Tout n'est qu'une symbiose, oui.
Et Evo Sapiens, ça voulait dire quoi pour vous ?
C'est en fait je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis pas à l'origine du jeu de mots, mais l'idée, c'était l'ensauvagement.
Il y a peut-être quelqu'un. Vous pouvez laisser la parole à la personne qui a dit ce mot-là.
Caroline, Evo, par exemple.
Non, mais Evo, c'était la contraction de évolution et sapiens, les hommes et les singes.
D'accord. Ok. D'accord. Et donc, qui est-ce qui avait le texte avec le mot clé symbiose ? Parce que, effectivement,
alors, je crois que c'est notre groupe. Et du coup, je ne sais pas si notre rapporteuse 1 est encore là. Sinon, ça sera Isabelle, notre rapporteuse 2, qui pourra prendre la parole. Bon, peut-être Isabelle, tu peux prendre la parole.
C'est un système très résilient, ça, Héloïse. S'il y a un rapporteur 1 et un rapporteur 2, la redondance fait partie de la résilience.
Voilà. Et puis, c'est même pas moi, c'est pas moi qui parle, moi, je ne voulais pas parler encore. Bah, vas-y, Isabelle, peut-être.
Alors, on avait parlé de symbiose parce qu'on trouvait que finalement, nos échanges étaient assez optimistes. Globalement, il n'y avait pas de gros catastrophisme. Au contraire, qu'on profite. Enfin, on allait bien en 2054, finalement. Et donc, nous, on a écrit le texte qui était sur la biodiversité. Je vous lis ou je…
Allez-y. Oui.
En 2054, j'ouvre mes volets. Ah, maintenant, je ne l'ai plus. Attendez. Merci. En 2054, j'ouvre mes volets. Je découvre une biodiversité où faune et flore coexistent. L'humain vit en symbiose, préservant et laissant développer la biodiversité. La nature est souveraine, on fait avec. L'humain a laissé faire, il a lâché prise. Je sais que si j'ai un problème, le groupe est là. J'ouvre mes volets sur ma forêt comestible pour laquelle je m'active du soir au matin, du matin au soir. Une partie de la nature est entrée en ville, une partie de la ville est partie dans la nature.
Très bien.
Donc voilà, donc symbiose pour cette harmonie, on avait pensé connexion aussi, vivre avec les cycles, avec d'autres cycles.
Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de forêt comestible, parce qu'on a l'habitude de penser champ, y compris agriculture urbaine, hein, et de penser forêt, ça me paraît important aussi, et c'est peut-être plus neuf, et c'est des perspectives qui sont...
C'était une notion qui était ressortie beaucoup dans nos échanges aussi, d'être dans une nature vraiment très évolutive et très, très, très importante.
Ouais. Et pas juste horizontale, il y a la verticalité de l'arbre qui me paraît aussi très importante, très intéressante.
Hervé, peut-être encore un mot, puis après il faut qu'on laisse peut-être un petit peu de place aux questions s'il y en a.
Encore un, c'est l'hirondelle, forcément l'hirondelle qui fait le printemps ou qui ne fait pas le printemps, je ne sais plus comment c'était, mais j'aimerais entendre parler cette hirondelle.
Je me permets de prendre la parole pour le groupe, je ne sais pas, on n'a pas désigné de rapporteur, mais j'ai écrit le texte, donc j'ai pris les notes de ce qu'on disait. Je vous le lis.
Très bien.
2054, nous avons tous pris l'habitude d'habiter avec le vivant, un vivant souvent surprenant. Mais ce matin, quand j'ai ouvert mes volets, je découvre deux hirondelles sur l'arbre en face de moi. Nous n'en avions pas vu depuis la grande crise de 2030 et les 17 confinements que nous avons traversés depuis. Ce retour est pour nous signe d'espoir, de joie, d'air pur, qui nous ferait presque oublier le passage des sangliers dans notre potager en permaculture il y a quelques années. Donc voilà, on est parti du principe que voilà, on va certainement descendre avant de remonter. Et que voilà, que certainement les hirondelles allaient peut-être décider de partir, vraiment. Et que ce retour, c'était vraiment signe d'une nouvelle ère pour nous. Et que voilà, que peut-être cette année 2054 serait l'année de renouveau avec ce signe fort qui est l'arrivée des hirondelles. voilà, on a pris l'habitude, hein, le vivant, effectivement, les sangliers, ben, on vit avec eux, ils ravagent le potager. Bon, ben, ça nous embêtait parce que ça nous prenait du temps, tout ça, mais voilà, et de l'énergie. Mais voilà, ça c'était un signe voilà, suffisamment puissant pour nous redonner espoir. Et donc, ouverture, voilà, printemps, quoi. Renouveau.
Super, merci aussi, parce que effectivement, je trouve ça intéressant, les hirondelles et les sangliers, on pourrait l'appeler. Donc, ça marche bien. Christine, tu voulais peut-être faire un tour de conclusion, parce qu'il est déjà 19h41. Le temps passe vite quand on écrit.
Ouais.
Christine, tu n'as pas mis ton... Voilà.
Oui, c'est bon. Ouais. Je vais savoir s'il y avait encore, on peut prendre une dizaine de minutes pour des questions ou des personnes qui auraient envie de dire un peu je sais pas, est-ce qu'il y a des
Marc Chéries.
Marc, ouais. Tu voulais faire quelque chose, dire quelque chose?
Non, Hervé avait conclu son propos liminaire sur la propriété, la transmission de la propriété. Je trouvais ça particulièrement intéressant. Est-ce que moi j'aurais bien amené le débat sur ce sujet, je le trouve particulièrement subtil. On va dire le mot subtil. On l'emploie rarement pour ce genre de sujet.
Merci.
Est-ce que j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent, le lien entre voilà l'écologie et la propriété. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Voilà, j'avais envie de. Moi j'aurais bien aimé qu'on parle de ça.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question ou Hervé, tu veux approfondir un petit peu?
Il y a Sophie, je vois, qui a levé la main.
D'accord.
Moi, j'ai eu un problème de coupure, donc je ne sais pas si mon groupe, qui était le numéro 5, a pu dire quelque chose. Et sinon, je voulais rajouter, on avait noté l'importance de la vie des communs et de l'intergénérationnel. Du partage et de la vie de quartier, de l'apprentissage par la pratique des enfants, c'est-à-dire l'école dehors et pas dedans. Et puis, le recours aussi à la technique, c'est-à-dire plus on n'abandonne pas quand même un certain nombre de choses. Donc, Laura avait parlé d'utiliser des hologrammes pour se voir à distance. Et je ne sais plus qui, de circuler sur coussin d'air, sans bruit et dans le confort. Donc voilà, de façon à pouvoir aussi garder de la curiosité et d'aller vers de découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que je voulais rajouter sur cet atelier. Je suis désolée, je me suis embrouillée et j'avais plus accès à rien. Voilà.
Merci Sophie. On a une question ou une demande d'intervention de Philippe Estingoy.
On prononce pas le goy, mais on peut.
Ah, pardon.
C'est pas gênant. Hein. Donc,
on prononce comment alors?
Il y avait un basque dans mon groupe au Pays Basque, on dit bien Estingoy.
Oui, c'est pour ça. Je me suis laissé emporter.
Non, c'était pour rebondir sur l'intervention de Marc tout à l'heure sur la propriété. Donc, je pense que la notion de propriété à la française est un facteur aggravant de la situation de la préservation de notre environnement. Et je pense que ça mériterait probablement des études comparatives avec ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. Pour pouvoir avoir un petit peu regardé le développement de l'urbanisme en Allemagne, la notion de propriété y est assez fondamentalement différente. Et de fait, l'évolution donc urbaine, donc au sens large, hein, de l'évolution urbaine, est fondamentalement différente. Donc, y a une priorisation à l'usage, beaucoup plus qu'une priorisation au patrimoine. Et cette priorisation du patrimoine qu'on a, donc, et qui vient de la révolution de 1789, et du coup, on ne peut jamais en parler, donc a des conséquences vraiment catastrophiques sur le développement de l'urbanisme et donc tous les impacts écologiques que ça peut avoir. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc, c'est une réflexion que j'ai depuis de nombreuses années. Il est à peu près impossible d'avancer là-dessus en France. Donc, avec dès lors qu'on parle de ce sujet-là, donc des menaces à la personne qui sont vraiment assez catastrophiques dans le débat. Hein. C'est assez effrayant.
Mais
est-ce que, j'ai une proposition, Philippe Estingoy. Estingoy, donc, alors comment on dit Estingoy ou Estingoy?
Plutôt entraîné à Estingoy, mais on peut dire Estingoy, ça ne me vexe pas du tout.
Bon.
Moi, en tant que juif, Estingoy. Hein.
Si on commençait le sujet, si c'était par la propriété, par la transmission de la propriété, à savoir l'héritage.
Ben, on peut. Hein. J'avais, il y a quelques années, écrit des choses tout à fait horribles hein, sur la taxation de l'héritage et sur la taxation des plus-values post-héritage. Mais ce sont des choses qui n'avancent pas.
Tu veux dire, Philippe, qu'on te traite de dangereux communiste? C'est peut-être ça, non, le terme qui est employé?
Ce serait un peu à droite, quand même, si on me traitait de dangereux communiste.
Il y a des chemins, quand même, pour faire changer ça.
Aux États-Unis, l'héritage est beaucoup plus taxé, et pourtant, ils ne sont pas très communistes. Hein.
Absolument.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'ajouter quelque chose ou de lire le texte qui a été écrit par son groupe?
En tout cas, avec Emmanuel propose d'organiser un Nissan Café sur la propriété, donc peut-être à venir. En tout cas, je le rebondis parce que ça, c'est vrai que dans notre groupe, on a pas mal parlé, sur le groupe de la symbiose, on a pas mal parlé de vraiment de commun, du fait qu'on est en groupe, on est plus résilient, qu'on a des surfaces plus petites aussi, mais qu'on a perdu peut-être en confort d'espace, mais qu'on a gagné en résilience humaine.
Hervé, bien joué.
Je ne pensais pas avoir un tel succès sur la question de la propriété, mais vous voyez bien que ça bouge dans nos imaginaires. Pour moi, seulement dans les imaginaires, je suis d'accord.
Si je peux intervenir à ce sujet pour ça de la propriété, bonjour à tous. Vous parliez là de ce qui s'est passé en 1789, en parlant de la propriété, je trouve que la propriété, en fait, c'est un peu une conséquence de ce qui s'est passé. C'est que on est passé à une société de droit. Ce qui a été défendu lors de la Révolution, c'est surtout les droits individuels. Et ça, c'est traduit par la suite dans la possibilité que chacun, peu importe son statut social, avait le droit à une propriété, le droit à un héritage. Et ce que je trouve assez beau dans tout ce qui a été évoqué, assez poétique, c'est que pour 2054, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de partage dans toutes les communautés qu'on a tous imaginées. Mais tout cela impliquerait du coup un véritable changement de culture. Et comme on a vu, les changements de culture en France se font aussi par des révolutions. Et peut-être que la prochaine révolution, c'est aussi comment est-ce que les gens vont se mettre à avoir cette culture, cette courtoisie de partage, de solidarité qu'aujourd'hui on n'a pas dans notre société, qui est très difficile à retrouver à des échelles autres que l'échelle de petits groupes d'amis, on va dire, ou de petites communautés avec très bonne volonté, une bonne volonté. Et du coup à quel moment en fait et comment va se faire ce switch de passer d'une société de droit où les gens vraiment mettent en avant leurs droits, mettent en avant leur propriété, mettent en avant leur possession, leur matérialité, leur richesse, à une société où les gens mettent en avant l'accomplissement de tous les devoirs qu'ils ont envers la communauté. Vraiment, plutôt que de dire j'ai fait pour la communauté. Et en fait, la propriété, pour moi, c'est simplement une matérialisation des droits qu'on souhaite avoir, alors qu'en fait, dans tout ce qu'on a imaginé, là, dans tous les poèmes, on parle beaucoup du partage, la solidarité. Et donc, en fait, à l'échelle de l'individu, ça amène les individus à bien respecter les devoirs qu'ils ont envers la communauté. Ouais. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit.
C'est très clair.
Ce que je pense, moi, c'est que pour ce problème de propriété, il faudrait qu'on ait une société dans laquelle on a confiance et on se sente en sécurité. Je crois que le problème de la propriété, c'est que on se dit voilà, je suis chez moi, je risque rien. Et quand je suis chez les autres, je suis en danger. Je pense qu'il y a une notion de confiance sociale derrière tout ça. Et je reste, je pense souvent à Cynthia Fleury qui est psychanalyste, philosophe, plein de choses, et qui a parlé d'une société qui était passée des communismes à l'individualisme. Elle disait, son idéal, ce serait qu'il y ait de l'individuation. C'est-à-dire que chaque individu, j'ai noté ce mot, il me semble très beau, et puis la démarche est belle, chaque individu devient vraiment lui-même avec tous ses talents et tous ses défauts, ses qualités, qu'il peut mettre ensuite au service des autres. Et du coup, il y a cette notion de partage, elle vient dans le fait qu'on est accepté tel qu'on est, avec nos fragilités, nos forces, etc. Et qu'on n'a plus ce système de compétition, finalement, qui fait qu'on se met des armures. Et comme on se met des armures, et ben, il faut des endroits où on enlève les armures et c'est dans notre propriété. Enfin, je résume un petit peu, peut-être... ce besoin de propriété que nous avons et qui est issu finalement effectivement de la Révolution française, mais issu de bien des malheurs avant et des famines et d'insécurité terrible de chasse à l'homme. C'est comme le droit de chasser, ça vient de là. Et c'est inaliénable. Excusez-moi, j'ai pris trop la parole.
Super. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention ou question? Et puis après, je te laisserai faire un petit mot de conclusion, Hervé. Et puis, je reprendrai la parole pour ouvrir un petit peu.
Christine, nous, on avait choisi comme mot coopération. Puis apparemment, ça ne fait pas trop rêver notre conférencier puisqu'il ne l'a pas choisi. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément toujours idéaliser la nature parce que finalement, dans la nature, il peut y avoir de la coopération, comme par exemple dans une forêt, mais il peut y avoir aussi de la prédation extrêmement violente, hein, avec certaines espèces qui se bouffent entre elles, etc. Et donc, la nature peut être extrêmement violente. Et donc, voilà, il faut faire attention quand on idéalise la nature, à peut-être à prendre le bon côté, mais aussi à avoir, être lucide sur certains mauvais côtés de la nature, comme notamment une perte d'efficacité aussi, qui est énorme pour certains processus naturels. Donc on aime bien cette idée de mettre au centre de notre utopie la coopération, mais en étant vigilant, finalement en restant vigilant par rapport au processus qu'on peut constater autour de nous.
Ok, merci.
Il y a un truc qui me fait réagir, Michel, dans ce que tu dis. Tu dis que la nature n'est pas forcément ultra efficace, mais connaît-on plus efficace que la nature?
Il y a beaucoup de processus naturels qui ne sont pas du tout efficaces. Hein. Si tu raisonnes en termes de physique, par exemple, le processus de reproduction n'est pas du tout efficace puisqu'il faut 1 million de spermatozoïdes pour aller féconder une ovule. Et donc, on voit bien qu'il y a une débauche d'énergie, d'entropie, si tu veux, dans la nature pour arriver à certains résultats. Après, la nature, c'est ce qu'elle est, mais on ne peut pas copier systématiquement la nature pour arriver à des choses efficaces. Ouais. Et tu vois, dans le biomimétisme, il y a tout un mouvement qui copie bêtement la nature et qui n'est pas du tout low-tech et qui devient au contraire très high-tech avec une débauche de matériaux, tout ça pour reproduire des formes qui existent dans la nature.
Juste un mot pour appuyer Michel. Pour nous, la nature est quelque chose d'aimable vers lequel on va, mais il y a des endroits où la nature, c'est le danger. Le danger, c'est pas l'autre, c'est la nature, et notamment le Japon. Au Japon, le danger vient de la nature et pas des autres.
Muriel avait demandé la parole aussi.
Micro. Muriel, si vous pouvez activer.
Oui. Oui, moi c'était sur la propriété. Je me disais que en allant pas à pas, on pouvait aussi reparler de la question de l'entretien et des usages, c'est-à-dire à partir du moment où on entretient les lieux, on les construit. On pourrait mettre en avant un droit à la gestion, à la participation qui soit à peu près l'égal de la propriété, quoi. Mmh. Aujourd'hui, on peut être propriétaire tout en laissant à l'abandon ou en vendant, revendant, revendant. C'était pour soutenir la demande d'un café sur la propriété.
Totalement pour.
Bon. Ben, je reviens un mot rapide de conclusion parce qu'on est à 3 minutes de la fin.
Ouais. Ben, je reviendrai en tant que participant parce que cette question de la propriété m'intéresse aussi, évidemment. Je pense que Michel avait raison, il ne faut pas idéaliser la nature. Et ce n'était pas le sens, je pense, des propos des uns et des autres. Mais c'est simplement qu'on doit faire avec. Et comme on a beaucoup fait contre, il y a un retour de balancier. Et donc, peut-être avec une forme d'idéalisation aujourd'hui. Et donc, il faut y faire gaffe. Parce qu'effectivement, moi, les virus, je n'ai pas trop envie de les croiser chaque matin. C'est évident. Et il n'y a pas que les virus. Donc, oui, il faut prendre faut faire de la politique avec le vivant. On est obligé de faire de la politique avec le vivant, c'est-à-dire trouver la place de chacun des acteurs dans un système plus global que celui auquel on était habitué jusqu'à maintenant. C'était quand même relativement simple de travailler uniquement avec des humains. Déjà, on a appris à travailler hommes et femmes, pas depuis très longtemps. Donc, on a un peu progressé. Peut-être qu'on va peut-être progresser.
C'est bon.
Pardon de ce mot un peu idiot, mais c'est vrai que on n'en est qu'au début quoi, de notre démocratisation. On n'en est qu'au début de notre prise en compte de l'autre. Et longtemps, quand même, pour l'homme, la femme a été l'autre. J'entendais tout à l'heure les sorcières sur France Culture. Et donc, voilà, on a longtemps considéré la femme comme une sorcière. Donc, on progresse. On progresse lentement, mais on progresse. Et je pense que c'est ça qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à progresser ensemble sans tomber dans l'idéalisme. Moi, c'est pour ça que la politique, c'est très important, parce que la politique, ce n'est pas de l'idéalisme, c'est de la construction de liens et du respect des droits de chacun. Il y a bien un respect, une reconnaissance de l'autre. Et donc, moi, je ne suis pas anti-droit. Hein, quand je dis le droit de propriété doit être revu, je ne dis pas qu'il doit être supprimé. Je pense qu'il doit être revu et qu'il n'est pas absolu. Ça ne peut pas être un droit absolu. C'est un droit relatif et on doit trouver des manières de construire cette relation. L'enjeu, c'est les relations. Et je pense que c'est ça qu'on a à travailler collectivement. Et en 2054, on sera reliés. Ouh.
Il y a juste une remarque, et la seule remarque négative que j'aurais à faire, Hervé, c'est que tu as dit tomber dans l'idéalisme. Non, on tombe rarement dans l'idéalisme. On peut tendre vers l'idéalisme. Mais moi, j'adorerais tomber dans l'idéalisme, mais pour l'instant, j'ai encore pas trébuché sur la branche qui me ferait tomber dans l'idéalisme. Voilà. C'est la seule remarque que j'aurais à faire, la seule relativité.
C'est un long débat.
Mais ce que vous dites, ça me fait penser au fait que la démocratie n'existe pas dans la nature, à l'état naturel. Quand on regarde les groupes animaux, il n'y a jamais de démocratie, par exemple, dans un groupe de singes. Et finalement, dans son idéalisme, ce qu'il essaye de faire, ça dépasse peut-être l'ordre naturel. Peut-être que ça va au-delà de ce qu'est capable de faire la nature d'une certaine manière.
Bien d'accord.
Waouh. Ça nous ouvre des perspectives immenses. Ouais. Alors, je vais être obligée de conclure. Par contre, ceux qui souhaitent rester encore un peu, on ne fermera pas. Hein, mais je pense qu'on avait dit 20 heures, il y a peut-être des gens qui ont des choses à faire derrière. Donc, un grand merci, Hervé. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a participé à l'organisation. Donc, dans le désordre, et quand même, donc Héloïse, Emmanuel, Sophie, Catherine, Annabelle, Francis, Milena. Voilà. Pour continuer, donc j'ai bien noté, je pense qu'on n'est pas tous seuls à avoir noté que ça serait intéressant d'avoir un ICEP Café sur la propriété. On peut aussi monter un groupe de travail ICEB sur la question des récits pour le monde d'après. C'est aussi un groupe de travail qui pourrait être en lien avec l'imaginarium dont Hervé nous a parlé.
Avec plaisir.
Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous envoyez un mail. Soit vous écrivez dans le chat, soit le plus simple, c'est d'envoyer un mail à l'adresse de l'ICEB. C'est contact@asso-icep.org. Excusez-moi. Voilà. Pour les membres de l'ICEB, on va avoir une AG en visio. Qui sera le 24 juin. Voilà. Et donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour poursuivre cette discussion, on peut poursuivre un petit peu là maintenant. Et sinon, donc, dites-le-nous et on pourra organiser une autre visio, par exemple, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble sur cette thématique-là. Voilà. Eh bien, merci de votre présence et de vos contributions. Et puis, pour ceux qui doivent partir, au revoir. Et pour les autres, ben, si vous voulez discuter un peu à bâton rompu, pas de souci, on peut rester encore un petit moment.
Je suis obligée de vous quitter. Au revoir à tous. Merci pour ce moment. C'était très sympa.
Au revoir, Hervé. Un grand, grand merci. À bientôt.